Bonjour, vous êtes sur Couleur FM 97.1 et nous allons écouter la 9e émission de Fenêtre sur cour en partenariat avec la Cité de la CAF et la Fondation de France. Nous sommes avec
Guylaine, bonjour.
Christine, bonjour.
Bernadette, bonjour.
Et moi-même, Micheline. Aujourd'hui, nous ouvrons une grande fenêtre cinéma avec l'association 8,5 que vous connaissez certainement et qui nous permet de voir régulièrement des films qui sont hors du circuit traditionnel. Puis, nous aurons un interview avec un jeune cinéaste réalisateur local, Jérémy Cuvillier, et cela nous donnera l'occasion de parler du BTS audiovisuel du lycée Léonard de Vinci de Villefontaine, dans lequel Jérémy s'est formé.
Eh bien, nous allons d'abord accueillir nos invités. Je vais vous laisser peut-être vous présenter.
Voilà, donc je suis Christian Repiton. Après Céline, Véronique, Jocelyne, Pierre et Patrick, c'est moi qui préside l'association 8,5.
Madame ?
Moi, je suis Jocelyne Diaz. J'appartiens à l'association 8,5 depuis ses débuts, en 1994. Et j'occupe de multiples fonctions annexes, comme voir les films en sélection, et puis un petit peu de secrétariat. Voilà.
D'accord. Eh bien, la première question que j'ai envie de vous poser, moi, c'est qu'est-ce que c'est pour vous le cinéma ?
Alors, d'abord, c'est une passion de jeunesse. Je pense que c'est aussi la fascination de l'image, peut-être plus facile, plus accessible que la lecture, mais qui débouche rapidement sur l'ouverture au monde et à toute la réflexion possible qui s'ensuit.
Et vous, monsieur ?
Ben, je crois que tu as tout dit, moi.
Rien à ajouter.
Je sais que c'est important pour moi. Voilà. C'est l'occasion de sortir de chez soi. Et c'est la convivialité avant tout. La vraie salle de cinéma. Enfin, voir les films en salle.
Eh bien, vous nous avez dit que l'association existait depuis 1994. Vous allez peut-être pouvoir nous raconter un petit peu comment ça s'est fait, cette création. D'où ça vient ? Qui l'a créé ? Pourquoi ?
Alors oui, je pense. Au début, le cinéma appartenait à la mairie de Villefontaine et qui a créé ce complexe de 4 salles et qui désirait en faire qu'une des salles soit gérée par une association pour en faire un petit peu sa vitrine culturelle en matière de cinéma. Et lorsqu'il y a eu le regroupement de la CAPI, eh bien le cinéma, après certaines difficultés, s'est retrouvé géré par la CAPI. Donc maintenant, ça appartient à la CAPI. Mais nous sommes toujours la vitrine culturelle de la CAPI en matière de cinéma. Peut-être, en tout cas, dans cette salle dont nous gérons uniquement, pas le fonctionnement matériel, mais le choix des films,
la programmation
et les animations.
En 2006, il y a eu un grand changement, hein, puisque le propriétaire de l'époque, Monsieur Davoine, s'est retiré, et il y a une nouvelle gérante, et depuis, nous travaillons ensemble, plus facilement qu'avec l'ancien, puisqu'il était basé à Bourg-Saint-Maurice, c'était plus compliqué d'avoir des relations. Ici, la gérante est sur place, voilà.
Et puis surtout, l'ancien gérant était beaucoup plus axé sur un cinéma commercial et on avait beaucoup plus de difficultés à défendre notre position, alors que la gérante actuelle est une cinéphile et qui même parfois apporte de l'eau à notre moulin en programmant dans les 3 autres salles quelques films aussi qui sont de plus de tendance art et essai que de cinéma commercial.
Donc nous rappelons que 8,5, c'est dans le cinéma Le Fellini à Villefontaine. Et expliquez-nous quand même la différence qu'il y a vraiment entre votre association et le cinéma au niveau commercial, vente des billets. Donc c'est le cinéma qui perçoit la totalité des revenus.
Oui, c'est ça. Nous nous occupons uniquement de la programmation. Nous faisons en fait le travail que fait une autre association que vous connaissez bien, Hors Piste, qui a fêté également ses 20 ans. J'y étais avant-hier et je les salue au passage, Marie-Jo, Catherine, toute l'équipe. Il y a Guy Brissot qui, à la Tour du Pin, fait aussi un travail équivalent. Voilà, je tenais à les citer.
Qui est-ce qui est à l'origine de l'association quand même?
Eh bien, à l'époque, en 94, l'adjoint à la culture, Denis Bouffin, qui est loin maintenant, qu'on salue au passage, a réuni une bande de cinéphiles parce qu'il existait une structure auparavant, L'Œil Vertical, qui programmait des films, le genre de films que l'on programme maintenant, mais le cinéma n'existait pas à Villefontaine. Nous organisions d'ailleurs des semaines cinématographiques au cinéma Le Dauphin, à La Verpillière. Et voilà, le noyau était fixé, c'était il y a 20 ans.
Vous étiez combien ?
Ah, nous étions que nous sommes actuellement, 7-8, 8,5 je dirais.
Vous étiez tous les deux à la création, donc. Vous étiez tous les deux à l'origine.
Non, moi en 94. J'ai pas participé à la
à oui, cette. Mais à peu cette... de temps après.
Très peu de temps après, oui.
Voilà.
Oui.
Combien d'adhérents avez-vous et combien de membres actifs ?
Eh bien, depuis quelques années, depuis 3-4 ans, nous tournons autour de 200 adhérents. Actuellement, nous avons entre 150 et 180, mais les gens, beaucoup de personnes s'inscrivent au cours de l'année, prennent leur adhésion au cours de l'année. Disons qu'au printemps, nous atteignons les 200.
Et est-ce que vous avez une charte et une ligne éditoriale ?
Je ne sais pas ce que vous appelez exactement une charte, mais nous, notre créneau, ce sont les films art et essai. Nous sélectionnons chaque semaine, il y a une vingtaine de films qui sortent, et nous en sortons deux ou trois, voilà. Chaque semaine, il y a deux films 8,5 qui sont programmés au Fellini. Parfois un seul, comme dans 15 jours, il y aura le film de Xavier Dolan qui a fait beaucoup parler de lui, Mommy. Là, il sera seul à l'affiche. Hein. Il y a des films qui sont capables d'attirer des gens tous les soirs de la semaine, mais généralement, c'est deux films. Si possible, un film en version originale, un film étranger et un film français, mais ce n'est pas toujours le cas.
Et c'est tous les soirs de la semaine ?
Oui, tous les soirs, il y a une projection.
Et la programmation, elle se décide comment ? Alors, vous êtes... qui voit les films ? Qui décide ?
Alors, nous nous réunissons une fois par mois et nous avons l'occasion de voir en avant-première des films une fois par mois également. Avec, je ne vais pas entrer dans les détails, la CRIRA, le GRAC, des associations qui nous permettent de visionner des films en avant-première dans la région lyonnaise. C'est là que nous rencontrons les gens de 8,5, de la Tour du Pin. Nous faisons notre marché, en somme, une fois par mois. Nous voyons 4 à 5 films dans la journée et nous en sélectionnons 1, 2, parfois 3.
Et quel est le pourcentage de films en version originale ? Est-ce que vous faites le choix, comme c'est quand même un cinéma d'art et d'essai, de privilégier les films en version originale ?
La plupart des films sont des films étrangers, c'est vrai, mais il y a quelques films français. D'ailleurs, on va vous dire la liste, non pas les 111 films que nous avons programmés à la saison dernière, mais le quart peut-être. Voici un petit échantillon de ce que nous avons passé la saison dernière à ciel ouvert.
Alababa Monroe.
Voilà. Black Coal.
Bonnie and Clyde.
Alors, Con la pata quebrada, en français, ça s'appelait Retourne à tes fourneaux.
Eastern Boys.
Bonnie and Clyde, oui, c'est parfois des films du patrimoine.
Gabriel.
Eka et Natia.
Aymat.
Ida.
Ilo Ilo.
La danse de la realidad.
Le géant égoïste.
Le son d'harmonie.
Les bruits de récif.
Les doigts dans la tête.
Les drôles de poissons-chats.
Les grandes ondes.
Les interdits.
On va bientôt s'arrêter, mais encore quelques-uns. Les jours heureux.
L'étudiant.
Mon âme par toi guérie.
My sweet peppermint.
Nebraska.
Omar.
Raging Bull.
Qu'il est étrange de s'appeler Federico.
Voilà, ça c'est le film qu'on a programmé pour notre fin de saison. Chaque année, en juillet, nous fêtons la clôture, parce qu'à une époque, on ne programmait pas pendant l'été. On s'arrêtait en juillet. Mais depuis 2 ou 3 ans, on continue quand même l'été. Mais on fait toujours la soirée de clôture. Allez, deux ou trois.
Raging Bull.
Tel père, tel fils.
Suzanne.
The Lunchbox.
Tom à la ferme.
Tonnerre.
20 Feet from Stardom.
Viramundo.
Et Welcome in Vienna.
Voilà le genre de film que nous passons.
Et je me rappelle aussi que vous avez fait venir Bertrand Tavernier, il me semble.
Il se trouve que Bertrand Tavernier, c'est le parrain de notre association. Donc il a mis longtemps à venir parce que nous l'avions invité précédemment, mais ce monsieur a beaucoup pris le cinéma, mais l'écriture également. Et il est venu présenter Quai d'Orsay lors d'une soirée intense, hein, en décembre dernier.
Et vous essayez de programmer un peu des animations autour de certains films.
Oui, nous avons par exemple attiré pas mal de monde sur Shirley, ce film sur la peinture. On était étonné de voir 185 personnes voir ce film. Il faut dire que l'intervenante est intéressante.
Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, Shirley, on l'a programmé en partenariat avec l'association.
Connaissance de l'art.
Connaissance de l'art. Et nous, nous essayons souvent de travailler en partenariat avec certaines associations. Donc, à ce moment-là, le public est démultiplié puisqu'il y a des gens qui viennent et pour le cinéma et d'autres pour le sujet.
Chaque fois que nous travaillons avec des associations. Le comité de jumelage avec Oxygène, je ne sais pas si vous connaissez Oxygène à Villefontaine, nous avons travaillé avec eux sur Gabriel et sur À ciel ouvert, donc tout ce qui concerne la santé mentale. Voilà, et si vous voulez des exemples d'animation, bien nous avons eu au mois de juin Route 60, un jeune réalisateur palestinien qui nous a présenté ce film. Ce qui est curieux, le film s'appelle Route 60 et il y a eu 60 entrées.
Bon.
Toujours en juin, le film sur les gaz de schiste No Gazaran, par contre, attirait peu de monde. Nous travaillions pourtant avec le service environnement de la mairie de Villefontaine. C'est dommage. Au mois de mai, toujours avec la mairie de Villefontaine, Viramundo et Mille Soleils, dans le cadre de Ville Art. Chaque année au mois de mai, il y a des événements culturels. Voilà, à la demande d'une association de yoga, le Souffle des Dieux, que nous n'avions pas prévu de programmer sur le yoga, a rempli la salle également. La Cour de Babel, c'était avec une autre association, l'AFSI, association pour les familles en difficulté financière. Une belle soirée également. Oui, nous avons également des films lycéens et au cinéma que les lycéens voient dans le cadre de cette association. Et on les passe une fois en soirée avec des intervenants. On a eu donc Norteado, film mexicain. On a eu Les Doigts dans la tête, le film de Doyon. Bonnie and Clyde également. Welcome in Vienna. Pour l'anecdote, en novembre dernier, La Dette, film, c'était dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale, avec qui nous travaillons chaque année, comme à Bourgoin. Le réalisateur était invité et est resté coincé à Clermont-Ferrand. C'était à cause de la neige. Non, il n'a pas pu venir. Les Jours Heureux de Gilles Perret avec le producteur Fabrice Ferrari, qui est décédé malheureusement cet été. Voilà, nous avons fêté les 20 ans de Villefontaine ou en Mali avec le dessin animé Aya de Yopungo, le beau dessin animé de Marguerite Aboué. Etc., etc. Pierre Rabhi, encore une anecdote, tiens, le film le Dauphiné avait titré ironiquement une séance de cinéma sans film. Effectivement, le film n'a pas pu être téléchargé. Maintenant, on a des problèmes avec le numérique, hein. C'est pas comme autrefois avec les films 35 mm. Mais finalement, on a reprogrammé le film le mois suivant et la réalisatrice a pu venir à cette occasion et on a rempli la salle. Pierre Rabhi. Au nom de la Terre.
Et justement, puisqu'on en est aux animations et aux soirées, on va peut-être parler de la prochaine animation que vous proposez en novembre. Et à cette occasion, comme c'est un film dont tu vas pouvoir nous parler, on interviewera après par téléphone un réalisateur qui est un réalisateur local.
D'accord. Thank you.
Vous avez peut-être reconnu la bande-son du film India Song, qui a été réalisé à partir d'une nouvelle de Marguerite Duras. Et avant de passer à l'interview de Jérémy Cuvillier, qui est un jeune Villard qui a été formé au lycée Léonard de Vinci avec le BTS audiovisuel, nous allons peut-être un petit peu parler de la soirée qui se profile.
Voilà. Donc, en fait, la veille, le vendredi, il y aura la soirée de la solidarité internationale dont je parlais tout à l'heure, avec le film « Les petits gars de la terre » sur la PAC, politique agricole commune. Bref, et le lendemain, donc, « Durasong », un excellent document sur le théâtre, sur l'Inde, qu'il faudra voir et vous ne serez pas déçus. Et d'autant plus que le réalisateur, Jérémy Cuvillier, est originaire de Villefontaine, il a fait le BTS au lycée Léonard de Vinci. Alors je crois qu'il est là.
Oui. Nous avons en ligne Jérémy Cuvillier. Bonjour Jérémy Cuvillier.
Bonjour.
Merci d'accepter de répondre à nos questions.
Bonjour Jérémy, vous êtes sur Couleur FM. Et bon, parlez-nous de vous, vous êtes donc de la région, du Nord-Isère. Parlez-nous de vos études, de votre parcours dans le Nord-Isère.
Ben écoutez, j'y suis né en 1977. Donc le temps passe, ça fait 37 ans, et j'ai effectivement fait ma scolarité là-bas, à Villefontaine précisément, et j'ai fait le BTS d'audiovisuel à Villefontaine, et je suis de la promo 2000, voilà. Tout ça c'est très très factuel, mais voilà, maintenant j'habite à Paris.
Et comment vous êtes venu à cette passion, parce que c'est une passion l'audiovisuel, bon, maintenant vous êtes réalisateur, vous êtes peut-être passé par différents stades, je sais qu'au BTS audiovisuel il y a plusieurs sections, quelle section avez-vous faite?
J'ai fait de la production audiovisuelle et du spectacle vivant. En fait, il y a de mémoire, parce que je sais pas si ça a évolué, hein, mais il y a plusieurs options. Il y a l'option image pour ceux qui veulent devenir caméraman. Il y a ceux qui veulent devenir monteurs qui font l'option montage. Il y a ceux qui sont plus des techniciens, qui sont des exploitants. Et moi, j'ai choisi la filière de production parce que elle me semblait la plus rébarbative, qu'on n'apprend pas forcément sur le tard, qui est, je pense, une filière qui s'enseigne, parce qu'il y a beaucoup de droits, il y a beaucoup de, donc les droits d'auteur, etc. Il y a beaucoup d'administratifs, et c'est un peu rébarbatif, le indispensable. Nous sommes utiles pour pouvoir mettre en place des tournages, des projets. Apprendre à cadrer, apprendre à monter, c'est des choses que moi j'estimais que je pouvais le faire sur le terrain beaucoup plus facilement que d'ouvrir un livre de droit d'auteur. Voilà, donc moi je trouvais que c'était la porte d'entrée la plus large, celle qui méritait le plus d'être enseignée, me semble-t-il. Maintenant c'est un point de vue, hein, attention. Mais ça ne veut pas dire que pour faire de l'image, il ne faut pas prendre des cours non plus. Voilà, mais simplement dans l'approche du métier, moi je me suis dit, comme il n'y avait pas de filière directement pour apprendre à être réalisateur, je me suis dit, si tu veux être réalisateur, apprends déjà à monter un projet. Qu'est-ce qui se met en branle? Qu'est-ce qui est en jeu quand on veut filmer des gens dans des lieux publics ou pas, pour pouvoir ensuite penser à l'étape de la mise en œuvre de quelque chose. C'est un peu cette approche-là qui m'a fait choisir la production.
En tout cas, Jérémy, bonjour, c'est Christian de 8,5. Je peux vous dire, vous avez réussi, votre film est super et c'est toujours l'accord pour le samedi 22 novembre.
D'accord, oui. Oui, j'ai bloqué.
La journée s'annonce fructueuse. Vous allez commencer, ça, elle commencera le matin à la médiathèque d'ailleurs avec des lectures de textes de Marguerite Duras et le soir au cinéma. Toujours avec votre film sera précédé de lectures par Janine Lautier des Mazières qui s'est déjà entraînée et qui a choisi de beaux textes, avec un accompagnement musical au violoncelle de Jacques Caqui-Perrin, que certains connaissent dans la région. Et votre film, qui est aussi magnifique.
Alors, j'apprécie beaucoup. Alors, on a quelques petites incursions, mais vous allez peut-être pouvoir nous parler un petit peu plus précisément du film, là, parce que déjà son nom.
Durasong.
Voilà.
C'est tout attaché, évidemment, c'est un jeu de mots et une référence un peu facile, parce que c'est Durasong, qui fait penser à India Song, la chanson, bien sûr. Je m'étais un peu renseigné pour savoir si le mot Durasong existait déjà, mais il n'existait pas. Mais il me faisait penser à tous les noms de l'Asie que Marguerite Duras utilise dans son texte India Song. enfin le vice-consul. C'est un texte assez difficile à résumer, mais il y a un moment, elle énumère comme ça, elle fait toute une cartographie un peu fantasmée d'ailleurs, qui est un peu imaginaire, à partir des villes. Alors on entend Batabang, Tonlesap, c'est des consonances comme ça qui se finissent. Moi, je trouvais que Durasong, ça aurait pu être une des villes de cette géographie qu'on trouve dans le vice-consul, dans son texte.
Alors, racontez-nous de quoi parle le film.
De quoi parle le film? Le film est une expérience de théâtre très durassienne, parce que c'est j'ai suivi la création d'une pièce de théâtre de Marguerite Duras, qui est Le Vice-Consul, mise en scène par Éric Vignier, du Centre National Dramatique de Bretagne à Lorient, qui est parti mettre en scène ce texte en Inde, avec des acteurs indiens, et donc dans différents lieux de l'Inde. Et c'est l'Inde principalement et le lieu de l'action du vice-consul de l'histoire de Duras. Voilà, c'est une Inde fantasmée, et donc on est allé fantasmer également cette histoire dans une Inde contemporaine, voilà, autour des personnages, avec les personnages qu'on a dans le vice-consul. Donc c'est un film qui raconte une expérience de théâtre à partir de Marguerite Duras. Et je sais pas, c'est difficile à résumer.
Non, il faut aller voir le film, bien évidemment.
Il faut aller voir le film, bien sûr. Non, en fait, pour ceux qui connaissent Marguerite Duras, c'est très simple à résumer. Pour ceux qui connaissent l'œuvre de Marguerite Duras, etc. Mais je me préoccupe toujours de ceux qui ne connaissent pas du tout, et j'ai essayé de faire un film qui soit un voyage et qui invite, en fait, à connaître davantage Marguerite Duras.
Est-ce que je peux vous couper et intervenir?
Oui,
vous
pouvez couper.
Voilà, je fais partie de 8,5. J'ai visionné votre CD. Je connais l'Inde pour y être allée quelques fois. Ouais. Je connais également le film de Marguerite Duras. Et ce que j'ai trouvé d'intéressant, en tout cas pour moi, et je pense que la magie va opérer pour les gens qui viendront voir votre film, il y a à la fois la magie de la fiction totale de Marguerite Duras, qui a fait quelque chose en studio, et pourtant on a l'impression d'être en Inde. Et puis il y a aussi toute l'Inde actuelle qui vient s'ajouter à cette magie. Enfin, la magie fonctionne avec la musique. Et puis il y a toute cette Inde actuelle qui est fabuleuse, et on voit les gens réagir par rapport à ce metteur en scène étranger qui vient les diriger. Enfin, moi j'ai été très 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 intéressée par cette interaction entre cette personne qui vient de l'Orient, dites-vous, qui essayait de diriger et qui dirigeait ses acteurs, et l'interaction. Donc il y a beaucoup de choses dans votre film, et ça m'a paru très intéressant.
Oui,
voilà.
Je crois que toutes les personnes qui font du théâtre amateur, qui viendront voir ce film, l'apprécieront beaucoup. Et également, tous les gens qui connaissent l'Inde, les vues de Bombay, de Delhi, de Calcutta sont superbes. Bravo pour le travail, bravo pour l'image, la prise de son.
Ah, merci. Voilà. Merci. Si je peux réagir sur cette magie, en fait, le texte de Marguerite Duras en Inde, c'est déjà une énorme étrangeté, en fait, hein, parce qu'elle n'a jamais été en Inde. Elle a fantasmé là-bas ce qu'elle a vécu, elle, en Indochine, et elle a complètement inventé, à partir d'un atlas, elle a inventé les lieux, elle a inventé un Calcutta, etc. Et ce qui est assez étranger, c'est cette façon française de mettre en scène un texte français dans un esprit indien. Et quand vous parlez de l'Inde contemporaine, effectivement, les comédiens sont complètement contemporains, et ils ont affaire à un texte qui est quand même daté de cette nostalgie d'une époque coloniale, etc., etc. Et pour eux, ça a été vraiment difficile de comprendre cette écriture de Duras, qui mise tout sur le texte et qui veut absolument pas que ce soit joué, interprété, comme on a l'habitude de le voir au théâtre, et comme eux, ils ont l'habitude, disons, de l'incarner. Donc c'est vrai qu'il y a eu vraiment une étrangeté comme ça qui a été amenée sur le plateau. Et c'est vrai que dans ce film, ça m'intéressait aussi de montrer l'Inde contemporaine. C'est pour ça qu'on voyage beaucoup entre l'histoire qui se passe donc dans une Inde des années 30 et l'Inde réelle. J'ai pas du tout cherché à à mentir ou à cacher la modernité, l'Inde contemporaine. Et effectivement, il y a, c'est vraiment deux étrangetés, à la fois temporelles et à la fois géographiques, enfin, entre la France et l'Inde, qui se rejoignent, quoi.
En tout cas, il faut pas tout dévoiler non plus, mais les acteurs indiens sont formidables, ils sont très beaux, ils sont très beaux en plus, voilà. Donc, avis à tous les amateurs de théâtre et aux amateurs d'Inde, rendez-vous le samedi 22 novembre au Fellini.
Une petite question quand même, on se demande pourquoi vous vous êtes intéressé à ça, comment c'est arrivé, je veux dire, c'est une commande, c'est un choix, c'est, expliquez-nous.
C'est un désir entre le metteur en scène et un producteur avec qui je travaille. Gilda Leroux, qui est producteur de la Compagnie des Indes, justement, qui est la boîte de production qui a fait ça, qui s'appelle la Compagnie des Indes, mais pas du tout parce que ils font des films en Inde, pas du tout. Ça n'a rien à voir, c'est un hasard total, mais ça tombe plutôt bien. C'est eux qui ont eu cette envie de signer la création dans un film, enfin voilà, et donc ils m'ont confié ce projet, mais j'avais une carte blanche totale, c'est-à-dire que on a fait ce film en dehors des circuits de diffusion de télé, quoi. On n'avait pas de chaîne, on est parti donc sans contrainte ni de format, ni... On m'a donné une carte blanche et en fait le voilà, donc ça s'est fait comme ça. Moi, après, mon déclic, ça a été de rencontrer Duras. J'ai lu énormément de choses sur elle, j'ai lu toutes ses interviews et en fait le point de départ, c'était vraiment d'imaginer un dialogue entre Duras et le metteur en scène, faire un grand écart entre deux époques, puisqu'évidemment Marguerite Duras n'est plus de ce monde. Voilà. C'est parti, je me suis approprié complètement une commande, sans contrainte en fait, carte blanche. Et on a fait un gros travail avec, je signale ça quand même, avec Yann-Gaël Poncet, qui est un musicien aussi du Nord-Isère. Il réside entre Paris, Lyon et Frontenac, il est originaire de Frontenac. C'est un musicien avec qui je travaille beaucoup et qui travaille beaucoup à partir du violon. Et je lui avais demandé, enfin c'est une musique qu'on a composée... ensemble, enfin c'est lui qui l'a composé, il m'envoyait des échantillons et puis on a avancé comme ça.
Donc, travail en commun, donc.
Très musical. Ouais, ouais, c'est une vraie collaboration musicale, quoi. Pour moi,
pour parler de vous plus, je veux dire, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est un réalisateur, en fait? Parce que les gens sont curieux de savoir, qu'est-ce que ça fait un réalisateur?
Un réalisateur, ça amène des idées dans le réel. Ça réalise, voilà, mais c'est un mot
qu'est-ce que ça recouvre,
très, très ambitieux. Le réalisateur, concrètement, il est un peu comme un chef d'orchestre.
D'accord.
Et il est chargé de travailler à partir d'idées, à partir d'une envie, d'un désir de film, qui peut être un désir initié par n'importe qui, enfin pas forcément par lui-même dans un premier temps, et il est chargé de mettre en place toute une équipe artistique, technique, pour faire un film. Donc avec le choix de l'image, le choix du son, comment est-ce que tout ça est filmé, comment ce sera traité, qui va faire le montage, etc. etc. Il n'est pas tout seul à le faire, hein. Un film, ça se fait pas tout seul. Et ça se réalise, il y en a un qui signe, mais c'est comme un bateau, un navire, il y a du monde, quoi. Il n'y a pas qu'un capitaine.
Voilà. Eh bien, on retrouvera le capitaine et le film le 22 novembre au cinéma Le Fellini, dans le cadre de la soirée organisée autour de Marguerite Duras et de votre documentaire. Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Bah, écoutez, mais je vous en prie, merci. Et puis, je suis très content de revenir au Fellini, enfin de revenir à Villefontaine présenter ce film. La dernière fois que je suis allé au Fellini, c'était pour la soirée de présentation des projets du BTS. En 2000, donc vous voyez, je suis parti de Villefontaine pour faire, disons, mon histoire professionnelle à Paris. Je suis passé par le Fellini, et là j'y retourne, alors c'est marrant.
Juste une petite question avant de vous lâcher, parce qu'on a posé cette question-là à nos invités. C'est quoi pour vous le cinéma? Votre définition?
Oula. C'est quoi pour moi le cinéma? Pour moi le cinéma, c'est une mise en image du désir, une mise en réalité du désir, voilà.
Mmh. Voilà. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Avant de passer à un petit focus sur le BTS audiovisuel avec une de vos anciennes professeurs que vous avez, m'avez-vous dit, beaucoup apprécié, nous allons faire une petite pause musicale. Et puis merci, à bientôt, donc au 22 novembre.
Merci.
Tout le monde a reconnu la musique d'Ennio Morricone. Alors, je ne sais plus si c'est le bon, la brute et le truand ou le. Il était une fois dans l'Ouest, mais bon, ça doit parler à l'imaginaire de chacun. Avant d'avoir Malika Anton du BTS audiovisuel, peut-être qu'on a le temps de reprendre. Ah non, on ne va pas avoir le temps de reprendre. Nous avons en ligne Malika Anton qui va nous faire un petit focus sur le BTS audiovisuel, qui est une des formations, enfin plusieurs formations qui sont proposées au lycée Léonard de Vinci. Bonjour Malika Anton, vous êtes à l'antenne ?
Oui, bonjour.
Merci déjà d'accepter de répondre à nos questions, puis on va peut-être vous demander de vous présenter dans un premier temps.
Oui, donc je suis Malika Anton, je suis enseignante au BTS des métiers de l'audiovisuel au lycée Léonard de Vinci à Villefontaine et également coordinatrice pédagogique de la section.
Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce BTS ? Depuis combien de temps il existe ? Quelle branche il propose ? Combien d'élèves, etc. ? Un petit focus.
Alors, ce BTS existe depuis les années 85. Voilà, il a été créé donc à l'ouverture de cette formation. Il comporte 5 options qui amènent à 5 familles de métiers différentes, donc des formations techniques. Donc, nous avons l'option gestion de la production. Nous avons l'option technique d'ingénierie, équipement et support. Nous avons également l'option métier de l'image, métier du son et métier du montage et de la post-production. Ça recouvre ces 5 options, concerne 50 étudiants par année. Donc comme le BTS se fait sur 2 ans, ça fait des promotions donc de 100 étudiants chaque année.
Les promotions sont équivalentes alors, les secteurs
oui,
sont...
Oui, en fait, voilà, chaque option dans ce BTS, ces options sont à 10 étudiants par option.
Qui vient suivre alors ces formations ? Comment est-ce que vous recrutez ?
Alors le recrutement, il se fait sur un recrutement post-bac, donc classique, hein, pour comme n'importe quel BTS. Au niveau des bacs, c'est assez varié. Ça dépend des options, en fait, puisqu'on n'a pas les mêmes prérequis selon les options. Donc, ça concerne aussi bien des bacs généraux, type S, ES ou L, ça c'est surtout pour les options, l'option gestion de la production, que les bacs technologiques, STI2D, STMG. Donc, voilà un petit peu la base de recrutement.
Et quel est le mode de sélection ?
Alors, le mode de sélection, il se fait à la fois sur les notes, donc les notes de première terminale, et elle va se faire sur la motivation, puisqu'on est quand même dans une formation sélective où on a énormément de demandes. Donc la sélection va porter aussi sur la motivation pour entrer dans cette formation et s'orienter vers ces métiers.
Lorsqu'on rentre donc en première année, en général, les deux années se passent, les étudiants sortent avec leur BTS au bout des deux ans, ou il y a déjà un petit peu de déchets entre guillemets?
Non, il n'y a pas d'échec entre les deux années. C'est vraiment une formation sur les deux années. Donc toute la progression est faite sur ces deux années. Donc il n'y a pas de redoublement. Il faudra vraiment un cas exceptionnel, d'étudiants qui rencontrent une difficulté de maladie. Mais sinon, ils font leur cursus en deux ans. Et à l'issue de ce cursus, eh bien, ils passent l'examen.
Et est-ce qu'il y a beaucoup de demandes sur le marché pour accueillir donc ces nouveaux cinéastes, ces nouveaux metteurs en scène, ces nouveaux monteurs? Comment sont-ils accueillis sur le marché du travail?
Alors, déjà, nous, on ne forme pas de réalisateurs. Nous, on est vraiment dans les métiers techniques.
D'accord.
De cadreur, de preneur de son, de monteur, de chargé de production. On n'est pas du tout dans, la partie artistique.
Je vous coupe parce que, justement, tout à l'heure, nous avons accueilli Jérémy Cuvillier, qui était dans votre lycée, qui, lui, il nous a expliqué, il est devenu réalisateur, mais effectivement, c'était une branche à part, oui.
Voilà, en fait, c'est vrai qu'on a des étudiants qui vont ensuite aller vers la réalisation, mais ça va être leur parcours personnel.
D'accord.
Donc c'est vrai qu'en ayant suivi la formation, ils ont acquis des bases techniques, et puis ils vont, de par leur parcours professionnel ensuite, choisir de s'orienter vers la réalisation. Donc c'est ce qui se passe, donc ce qui s'est passé pour Jérémy, puis pour d'autres anciens étudiants.
Je reviens à ma question de tout à l'heure. Oui, quel est le pourcentage d'étudiants qui trouvent du travail en sortant de leur BTS?
Le pourcentage, on va dire que on est dans les aux alentours de 70%. Alors, l'intégration dans la vie professionnelle n'est pas forcément immédiate à la sortie du BTS, parce que ce sont des étudiants qui vont intégrer le milieu professionnel via l'intermittence. Donc, ça va se faire progressivement. Mais on va dire que l'intégration, au bout d'un an, un an et demi, c'est à peu près 50 à 70%. D'autant plus qu'aujourd'hui, beaucoup choisissent de poursuivre après le BTS sur une année supplémentaire type licence pro, licence professionnelle.
Et ils ont quel âge quand ils arrivent chez vous à peu près? Je veux dire, il y a des gens qui sortent tout juste du bac ou...
Voilà. En général, on va dire que la majorité, effectivement, sont issus tout de suite après le bac. Après, nous avons quelques parcours un petit peu différents, des étudiants qui ont fait un an, deux ans de formation et qui se réorientent ou qui n'ont pas pu intégrer la première année de leur demande et qui vont réussir la deuxième année. Mais en général, c'est vrai que la majorité, ce sont des étudiants de post-bac.
Et ce n'est pas un BTS en alternance, c'est un BTS
Non, nous n'avons pas d'alternance. Non, nous, c'est vraiment en formation initiale. Donc, ils ont des stages, ils ont deux stages, un en première année, un en deuxième année, mais nous n'avons pas d'alternance.
Ils doivent eux-mêmes trouver leur stage ou vous leur fournissez?
Ils trouvent leur stage, mais nous les accompagnons, puisque nous avons déjà une liste importante d'entreprises avec lesquelles nous travaillons depuis longtemps, donc qui accueillent régulièrement des stagiaires. Donc, ils sont accompagnés dans leur démarche, mais effectivement, c'est à eux de faire les démarches et de trouver leur stage.
Quel conseil vous pouvez donner à un jeune qui est intéressé par un des BTS que vous proposez?
Alors, les conseils, c'est vraiment déjà de réfléchir en termes de qu'est-ce que je veux faire comme métier. C'est-à-dire, j'ai envie de travailler dans l'audiovisuel, mais c'est vague. Donc, c'est vraiment se positionner en termes, effectivement, de métier pour déjà choisir sa filière dans les cinq options et donc de se projeter sur cet avenir professionnel, sachant qu'il n'est pas figé, cet avenir, qu'ils vont forcément évoluer, ne serait-ce qu'au cours des deux ans de la formation et à cause de l'expérience qu'ils auront eue pendant leur stage. Mais c'est vraiment de se positionner déjà par rapport à ça. Cette envie vraiment de travailler dans ce milieu et dans certains métiers de ce milieu-là. Donc ça, c'est essentiel. Et puis ensuite, d'essayer de, on va dire, varier un petit peu leurs activités, d'essayer déjà d'avoir, via des associations, quelques expériences, voire des petits stages, bien que ça ne soit pas une obligation. Mais nous, ça va nous montrer effectivement que ce sont des jeunes qui ont réfléchi à leur parcours et puis qui se projettent en fait, effectivement, professionnellement.
D'accord, donc vous essayez un petit peu même de donner envie aux jeunes qui ne sont pas en BTS mais qui sont sur les filières d'avant, vous essayez peut-être de faire un peu de pub? Non, vous n'avez pas besoin de pub en fait.
Non, en fait, on n'a pas besoin, on n'a pas vraiment besoin de publicité. C'est vrai, mais c'est oui et non. On va dire qu'on essaye quand même de maintenir cette information et puis surtout de bien faire connaître les différentes options, les différentes filières, de façon à ce qu'ils ne se trompent pas, on va dire, au moment de leur choix.
Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, on va vous poser une dernière question qu'on a posée à tous nos invités. Oui. C'est qu'est-ce que c'est pour vous le cinéma ?
Le cinéma, oula, c'est une question à froid comme ça. Bah écoutez, pour moi, c'est déjà, bah voilà, c'est un art, incontestablement. Et c'est effectivement une façon de s'exprimer, d'exprimer, voilà, ce qu'un réalisateur a en lui et d'apporter une variété énorme dans cette forme d'expression, tout comme la littérature peut le permettre. Voilà, c'est un peu compliqué comme question, je vais répondre
oui,
comme
c'est,
ça.
Oui, c'est pas évident. En tout cas, merci de nous avoir répondu. On va poursuivre l'émission avec l'association 8 et demi, et merci beaucoup à vous.
Merci, bonne journée, au revoir.
Alors, une transition s'impose avec les lycéens. 8 et demi fournit des contre-marques à 3 € pour les lycéens. C'est-à-dire que pour la modeste somme de 3 €, et nous complétons, ils peuvent aller voir les films que nous programmons.
De Villefontaine ou les lycéens de la région ?
De Villefontaine. Et parfois, nous faisons parvenir des contre-marques au lycée d'Ildabo lorsque on nous les demande.
D'accord.
Il faut dire que ces temps-ci, les lycéens sont venus en grand nombre voir Boyhood, le film de Richard Linklater, et à la recherche de Viviane Maier, le film sur cette photographe, les a beaucoup intéressés. Nous programmons aussi pour les tout-petits en maternelle, dans le cadre de 1, 2, 3 ciné, avec la mairie de Villefontaine. Voilà.
Une petite pause musicale.
Vous allez pouvoir nous parler des événements futurs au cinéma 8 et demi.
Oui, donc on a parlé de Durasong le 22 novembre, mais auparavant, il y aura à partir du 5 novembre, la semaine du 5 novembre, le film de Wim Wenders, Le sel de la terre, dont on parle pas mal ces temps-ci, avec une exposition des photos du grand photographe brésilien Sébastien Salgado. Voilà. Et après Durasong, donc fin novembre, début décembre, la semaine italienne traditionnelle. Un des membres de 8 et demi est allé faire son marché au festival italien Annecy, et nous programmons 4 ou 5 films, voilà, à partir du 26 novembre. Et un réalisateur viendra le 10 décembre, notez la date, c'est le mercredi, Laurent Bécu-Renard, à réaliser ce film qui sort la semaine prochaine, je crois, ou dans 15 jours, « Of Men and War », des hommes et de la guerre, sur ces soldats américains revenus d'Irak et d'Afghanistan et qui suivent une thérapie de groupe pour essayer de se reconstituer. Très intéressant documentaire et réalisateur très intéressant que nous avons rencontré à Charlieu. Charlieu où chaque année se regroupent des cinéphiles pour visionner des films en avant-première. Voilà.
Bien, bah écoutez, il nous reste à vous remercier de tout ce que vous nous avez fait partager. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter ?
Oui, je voulais dire que les films 8 et demi sont précédés d'un court-métrage, ce qui est assez rare maintenant. C'est-à-dire que chaque semaine, lorsqu'il y a deux films, avant le film le plus court, il y a un court-métrage. Et c'est souvent des court-métrages de très bonne qualité, quoi. Voilà.
Et peut-être repréciser que tous les films sont en VO. Alors évidemment, lorsque ce sont des films français... Ils sont en français. Mais je veux dire, à 99,99%, les films sont en VO. Il arrive que de temps en temps, il y en ait un qu'on ne puisse pas obtenir en VO, mais c'est notre règle.
Non, plus maintenant, c'est tout en VO. Et pour terminer, pour revenir à l'origine de 8,5, c'est bien sûr le film de Fellini, ça s'écrit en chiffres, mais ça peut s'écrire en lettres aussi, avec un D minuscule quand il s'agit du film. Par contre, l'association 8,5, vous mettez un D majuscule.
Voilà, la précision était importante. Ouais. Voilà, c'est le mot de la fin. Donc, il nous reste à vous remercier de nous avoir fait partager autant de choses. Et pour nous mettre dans l'ambiance, on va vous faire écouter une petite incursion avec la voix de Delphine Seyrig dans le film India Song.
Vous savez, presque rien n'est possible aux Indes. C'est ce que l'on peut dire.
Vous parlez de quoi ?
Oh. De rien, de ce découragement général. Ce n'est ni pénible ni agréable de vivre.
Voilà, donc c'était notre voix du mois, Delphine Seyrig, qui a une voix assez particulière, que personnellement j'aime beaucoup. Bon, on va passer à la partie agenda. On a quelques petites infos à vous faire partager. Je laisse la parole à Christine.
Alors, pour le jeudi 20 novembre à 19h à la Maison de Launay, la Maison de Launay, les rues de la République à Bourgoin-Jallieu, une conférence sur l'art et la mémoire. Et pour certains artistes contemporains, le souvenir, la mémoire ou l'histoire sont des sujets importants dans leur démarche. Alors, toujours sur le thème de la mémoire, une performance théâtre, mardi 18, vendredi 21 novembre à 20h30, toujours à la Maison de Launay. Les inventaires de Philippe Mignana par le Théâtre de la Nacelle. Le déroulé de trois vies de femmes à partir d'objets et d'instruments du quotidien.
Quelques dates à retenir avec le Centre social de la CAF. La Bourse aux jouets du 5 au 7 novembre. Une exposition avec idées cadeaux et déco de fête le mardi 25 novembre. D'où découleront des ateliers de Noël pour adultes du 1er au 19 décembre. Puis l'exposition « Les migrants, histoire d'identité » par Marie-Anne Beaudenon, un travail artistique lié à un engagement pour les droits humains du 12 au 26 novembre.
On remonte dans le temps, vous avez aussi une conférence entrée libre au musée le jeudi 13 novembre à 20h sur le thème des ateliers, des usines, paysages industriels des Vals du Dauphiné.
Et à la médiathèque de Bourgoin-Jallieu, une conférence-concert du blues à la Nouvelle Soule, le vendredi 21 novembre à 18h30. Cette conférence-concert est proposée par la SMAC, les abattoirs, et la conférence est faite par Sébastien Danchin, avec des interprétations par Harrison Kennedy. C'est sur inscription, on vous attend nombreux.
Et pour les petits, encore, on remonte encore un peu dans le temps, le 5 et 12 novembre, dans les bibliothèques municipales de Villefontaine, de 10h30 à 17h, il y a Sarah qui nous compte les sorcières, les chats noirs et les vieux balais. Et la réservation est obligatoire au 04 74 96 20 29. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts. L'émission se termine. Nous allons remercier encore une fois nos invités et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine fois. À bientôt.